Bon, pour notre plongée dans les sources d'aujourd'hui, on va se pencher sur des documents absolument fascinants.
Oui, tout à fait. Je dirais même que c'est une lecture indispensable.
Absolument. Il s'agit des notes de cours détaillées du docteur Craig Kinner. Et plus spécifiquement, on va regarder sa 15e session. C'est celle qui décortique en fait les chapitres 13 à 15 du livre des Actes des Apôtres.
Voilà, une période vraiment charnière.
Ouais. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre l'impossible, quoi. Comment est-ce qu'un mouvement spirituel naissant, coincé au premier siècle de notre ère, a pu survivre à des malentendus interculturels mais désastreux?
Désastreux et violents, hein.
C'est ça. Survivre à la fureur meurtrière des foules et surtout, et on va le voir, c'est crucial, survivre à ses propres conflits internes. Des conflits qui menaçaient à tout moment de faire imploser la communauté.
C'est un vrai miracle historique qu'il n'ait pas disparu en quelques mois, en fait.
Exactement. Et pour bien saisir l'ampleur du truc, pour ceux qui nous écoutent, il faut s'imaginer une scène totalement surréaliste. Une place bondée dans une ville antique.
D'accord, je vois le tableau.
Les habitants sont là, ils scandent des prières dans un vieux dialecte, et un prêtre majestueux s'avance. Il tire un taureau massif avec des cornes couvertes de guirlandes de fleurs hors de prix. Et ce taureau, il va être sacrifié.
Et pas pour n'importe qui.
Mais non, la raison de ce sacrifice, c'est que la foule est intimement convaincue que deux prédicateurs itinérants sont littéralement les dieux grecs Zeus et Hermès, descendus sur Terre.
C'est fou, hein? Mais c'est un point de départ extraordinaire pour notre exploration. On a souvent tendance à lisser l'histoire ancienne, vous savez, à la rendre très propre, très, disons, très ordonnée.
Ouais, un peu comme dans les vieux péplums, quoi.
C'est ça. Mais ce que révèlent ces notes, c'est un chaos humain monumental. On n'est pas simplement en face à de la théologie abstraite. C'est un véritable cas d'école sur la communication interculturelle.
Une vraie masterclass de gestion de crise, même.
Exactement. De l'adaptation stratégique en temps réel. On se trouve à un carrefour historique précis où de toutes nouvelles idées viennent percuter de plein fouet des traditions culturelles millénaires, avec des conséquences qui sont, parfois mortelles.
Et le contraste est vertigineux. Parce que quelques jours à peine après avoir voulu vénérer ces deux hommes avec un taureau et des fleurs, et cette même foule va se laisser manipuler. Elle va se retourner contre eux et tenter de les massacrer à coups de pierre.
Le basculement est total, oui.
C'est ce basculement qu'on doit décortiquer. Bon, pour comprendre comment on en arrive à cette histoire de dieu grec et de lapidation, il faut d'abord se pencher sur la stratégie initiale de ces prédicateurs, Paul et Barnabas.
C'est là que le contexte est important.
Tout à fait. Avant ce fiasco, nos sources nous montrent Paul dans une synagogue, à Antioche de Pisidie. Et ce qui ressort de cette analyse, c'est son incroyable capacité à lire son auditoire.
C'est exactement ça. À Antioche, Paul s'adresse à un public très, très spécifique. Ce sont des Juifs de la diaspora et des sympathisants païens qui sont profondément imprégnés de la culture de la synagogue.
Donc des gens qui connaissent les textes, quoi.
Oui. Et Paul le sait. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas débarquer avec des concepts philosophiques grecs ou des idées complètement abstraites. Il doit utiliser le langage d'autorité que ce public respecte.
Les écritures hébraïques, du coup?
Voilà. Et l'analyse détaillée du docteur Kinner montre comment Paul construit un argumentaire d'une grande rigueur intellectuelle. Il ne se contente pas de citer des textes au hasard, hein. Il tisse des liens hyper complexes.
Oui, il prend le psaume 2. Le psaume 16.
C'est ça, le psaume 16, des passages du prophète Habacuc et même les textes d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Son but, c'est de démontrer de l'intérieur même du système de pensée de son auditoire que toute l'histoire d'Israël trouve son aboutissement logique en la personne de Jésus.
Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que j'ai une image qui me vient en tête quand je parcours ces notes. Pour notre audience, c'est comme un excellent DJ, en fait, qui sait parfaitement lire la salle.
Ah, j'aime beaucoup cette analogie.
Oui, on ne passe pas la même sélection musicale dans un club de jazz feutré et dans un gigantesque festival d'électrotech. Le bon DJ, il ressent l'énergie et il a juste sa sélection. Ici, Paul, il a juste sa playlist intellectuelle, quoi.
Il lit son public à la perfection.
Et techniquement, comment est-ce qu'il s'y prend pour convaincre des érudits? Parce que c'est pas juste une question de charisme, si. Il y a une vraie technique derrière.
Oh oui, il y a une technique extrêmement sophistiquée. Pour filer votre métaphore du DJ, Paul utilise des techniques de mixage textuel, disons, que les érudits de l'époque considéraient comme le sommet de l'art rhétorique.
D'accord, un vrai pro.
Absolument. Nos sources mettent en lumière l'utilisation d'un principe herméneutique bien précis qu'on appelle la Gezera Shava. En termes simples, c'est une méthode rabbinique qui permet de relier deux passages bibliques distincts en s'appuyant sur un mot-clé ou une racine verbale commune.
Attendez, Comment ça marche concrètement dans son discours, cette Gezera Shava ?
Qui affirme que Dieu ne laissera pas son saint voir la corruption du tombeau. Le mot de liaison, c'est ce terme « saint ».
Ah ouais, astucieux.
Pour nous aujourd'hui, bon, ça peut sembler être un simple jeu de mots, hein. Mais pour les auditeurs du 1er siècle qui étaient formés à la synagogue, entendre cette connexion, c'est l'équivalent d'une démonstration mathématique ultra élégante. Ça capte instantanément leur respect.
Et c'est là qu'il va attaquer de front le sujet le plus complexe, je présume ?
La crucifixion. C'était le point d'achoppement majeur, oui.
Parce que plutôt que de cacher le fait que le leader de ce mouvement a été exécuté de la pire des manières par les Romains, il renverse complètement l'argument.
C'est un coup de génie rhétorique.
Il utilise ces mêmes textes pour prouver que même l'injustice humaine fait partie de la souveraineté de Dieu. Genre, les dirigeants locaux ont voulu détruire Jésus, mais en le condamnant, ils n'ont fait qu'accomplir au millimètre près ce que les prophètes avaient annoncé.
C'est un argument redoutable d'efficacité. Paul leur dit essentiellement « Fouque ». La pire désobéissance humaine a été le rouage nécessaire pour accomplir le plan divin parfait.
C'est fort.
Dans un monde antique où la notion de fatalité et de providence divine est centrale, c'est une manière brillante de transformer la plus grande faiblesse apparente du mouvement en sa preuve de légitimité la plus absolue.
Mais là, je dois soulever un paradoxe. Si Paul est ce fameux DJ intellectuel incroyablement doué, ce maître de l'adaptation, comment est-ce qu'il a pu être aussi aveugle quelques jours plus tard à Lystre ?
Ah, c'est le grand tournant du récit.
Bah oui, il n'a pas remarqué que les gens ne comprenaient rien à son discours avant que le prêtre n'arrive avec son taureau. C'est quand même un raté monumental de lecture de foule, non ?
C'est là toute la beauté et le danger, hein, du choc culturel. La situation à Lystre est radicalement différente d'Antioche.
C'est-à-dire ?
Lystre était une colonie romaine, certes. Mais sous ce vernis politique, la population locale était de souche lycaonienne. Ils étaient profondément immergés dans d'anciennes légendes phrygiennes. Il n'y a pas de synagogue là-bas.
D'accord, on change complètement de salle.
Exactement. Paul et Barnabas arrivent et un événement extraordinaire se produit. Paul guérit un homme incapable de marcher depuis sa naissance. Pour Paul, intellectuellement, c'est un écho direct aux prophéties du chapitre 35 d'Isaïe sur la restauration divine.
Où les boiteux bondiront comme des cerfs. Le problème, c'est que les agriculteurs de Lystre, ils n'ont jamais lu Isaïe, eux.
Ils n'ont pas du tout la même playlist, pour reprendre votre terme.
Voilà. Ils voient un miracle, mais ils l'interprètent à travers la seule grille de lecture qu'ils connaissent, leur propre mythologie. Et c'est là que les notes de notre source font un lien mais magistral avec une légende rapportée par le poète romain Ovide. L'histoire de Philémon et Baucis.
Ce mythe phrygien était terrifiant pour les locaux, en fait. Selon la légende, les dieux suprêmes, Zeus et Hermès, avaient autrefois voyagé incognito dans cette même région, déguisés en simples voyageurs.
Et ça, c'était mal passé.
Très mal. Ils avaient demandé l'hospitalité de porte en porte et toute la vallée les avait rejetés. Tous, à l'exception d'un vieux couple très pauvre, Philémon et Baucis. Pour punir cette inhospitalité, les dieux avaient déclenché un déluge apocalyptique noyant tous les habitants.
Waouh ! Il faut s'imaginer la pression psychologique sur ces habitants de Lystre. Ils voient un miracle physique indéniable. Dans leur tête, l'équation est instantanée. Les dieux sont revenus.
Et s'ils ne les accueillent pas, le déluge recommence.
C'est une réaction de pure terreur, en fait, d'instinct de survie.
La survie, oui, couplée à une ferveur religieuse immédiate, et la manière dont ils distribuent les rôles entre Paul et Barnabas est fascinant d'un point de vue anthropologique. Ils identifient Barnabas à Zeus.
Pourquoi Barnabas et pas Paul ?
Probablement parce que Barnabas devait être d'une stature plus imposante, peut-être plus âgée, et qu'il restait silencieux. Il gardait une certaine réserve digne d'un roi des dieux.
Ah, je vois. Et Paul ?
Paul, c'est celui qui gesticule, qui dirige l'action et surtout qui parle. Il est donc logiquement identifié à Hermès, le dieu messager, la voix de l'Olympe. C'est pour ça que le prêtre du temple de Zeus s'empresse de préparer ce sacrifice somptueux.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une question me brûle les lèvres en lisant ça. Pourquoi n'ont-ils pas simplement utilisé un interprète pour arrêter la machine avant que ça n'aille si loin ?
Parce que dans l'Antiquité, et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, l'émotion court-circuite complètement la langue véhiculaire. Ces gens parlaient probablement un peu de grec pour le commerce.
Mais sous le coup de la panique...
Voilà. Confrontés à ce qu'ils pensent être une épiphanie divine, ils basculent immédiatement dans leur langue maternelle, le dialecte lycaonien. Paul et Barnabas n'y comprenaient pas un traître mot.
C'est un mur linguistique.
Totalement. L'analyse du docteur Kiner illustre d'ailleurs parfaitement ce phénomène. Il partage une anecdote personnelle sur une expérience avec un interprète en langue Haoussa. Il explique que le message peut être complètement corrompu sans que l'orateur ne s'en rende compte.
Tant qu'on ne regarde pas le public.
C'est ça. Ce n'est qu'en lisant la réaction physique de la foule, genre un regard d'horreur au lieu de l'assentiment prévu, qu'un orateur comprend que son discours est en train de se transformer en catastrophe.
Paul et Barnabas vivent littéralement ce décalage. Ils entendent des cris incompréhensibles. Et puis soudain, ils voient arriver la procession, le taureau, les guirlandes, le prêtre.
Et l'horreur absolue pour eux.
Ils réalisent qu'ils sont au centre d'un culte idolâtre. Et c'est là que Paul montre sa réactivité. Il déchire ses vêtements, ce qui est le signe juif ultime d'horreur face au blasphème. Mais surtout, il change de playlist en un éclair. Il abandonne Isaïe et les psaumes.
Oui, il comprend très vite que la Torah ne veut strictement rien dire pour des fermiers anatoliens terrifiés par Zeus.
Il utilise quoi alors ?
Il adopte un langage philosophique très proche du stoïcisme qui était largement diffusé à l'époque. Les stoïciens croyaient que l'observation de la nature permettait de déduire les attributs de la divinité.
Et ça leur parle, ça fonctionne.
Énormément. Paul leur parle du Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui envoie les pluies bienfaisantes et qui accorde les récoltes abondantes. Il utilise la pluie et la terre, le langage intime de leur survie agricole, quoi.
Pour les convaincre qu'ils ne sont que des hommes.
Exactement. De simples hommes apportant de bonnes nouvelles et pas du tout des dieux en colère.
Il parvient in extremis à annuler le sacrifice, mais... Et c'est là qu'on frémit, cet événement souligne une réalité glaçante sur les foules antiques, leur versatilité extrême. Parce que cette adoration hystérique, elle va se métamorphoser en soif de sang à peine quelques jours plus tard, et à cause d'un élément extérieur.
Oui, la vitesse à laquelle ça dégénère illustre bien la brutalité brute de ce premier siècle. Des opposants juifs, qui sont furieux de l'influence de Paul, n'hésitent pas à voyager depuis Antioche de Pisidie.
Attendez, Antioche, c'est à quoi, 160 km de Lystre ?
À peu près, oui. Et dans l'Antiquité, traverser 160 km de route montagneuse à pied, c'est plus d'une semaine de marche épuisante.
Faut vraiment le vouloir, quoi.
Faire un tel effort avec pour seul but de faire taire un adversaire, ça témoigne d'une haine viscérale. Ces agitateurs arrivent, ils trouvent une foule de Lystre un peu confuse, peut-être honteuse de son erreur sur les dieux, et il manipule ce ressentiment pour déclencher une émeute.
Et cette émeute, ben, elle aboutit à une lapidation. Je crois d'ailleurs que notre audience, comme moi, a souvent une image erronée de la lapidation, comme si c'était une exécution encadrée, presque légale.
Ah, pas du tout. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas un tribunal avec des gardes qui exécutent une sentence, c'est un lynchage urbain sauvage, un accès de rage collective chaotique.
Avec les moyens du bord.
Exactement. Dans les rues d'une ville antique, tout devenait une arme. La foule arrachait les pavés des routes, ramassait de gros cailloux, et les gens sur les toits arrachaient carrément les tuiles pour les projeter avec force vers le bas.
Pas sur lui, en fait. Paul est écrasé, il est traîné, hors des murs de la ville, comme un déchet, et il le laisse pour mort.
Mais il survit.
Oui, miraculeusement. Ses compagnons l'entourent, il se relève, et là, on pourrait logiquement se dire, bon, c'est bon, ils partent pour Derbé, à 3 jours de marche, ils sont à l'abri, ils vont soigner leurs blessures.
Ce serait la réaction humaine normale.
Mais c'est là qu'ils prennent une décision complètement folle. Pour ceux qui nous écoutent, c'est l'équivalent de retourner dîner de son plein gré dans un restaurant qui vous a donné une intoxication alimentaire grave. Paul fait demi-tour et retourne exactement là où on vient d'essayer de le tuer.
Il retourne à Lystre, oui.
Pourquoi un tel comportement, c'est suicidaire ?
Ce qui est fascinant ici, c'est que ça ressemble à un instinct suicidaire, mais c'est en réalité une décision hautement stratégique. Paul avait parfaitement compris la psychologie des foules antiques.
C'est-à-dire ?
L'émeute était finie.
Voilà, une émeute est un feu de paille. Une fois les agitateurs extérieurs repartis, la fureur retombait. Mais le vrai but de ce retour, c'est l'impératif organisationnel. Paul savait qu'un mouvement ne peut pas survivre uniquement sur de l'enthousiasme.
Il fallait structurer tout ça.
Absolument. Ces nouvelles communautés étaient fragiles. Il devait nommer des responsables locaux, des presbytères, pour former un conseil dirigeant, avant de les quitter pour de bon.
Il retourne donc voir ses nouveaux membres, avec littéralement les cicatrices de sa lapidation sur le visage. Pour incarner la leçon qu'il leur enseigne, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume. Le message visuel est d'une puissance inouïe.
C'est clair. Mais l'ironie tragique, c'est qu'ils ont survécu à la haine extérieure, aux pierres, aux mythes. Et c'est le succès même de leur mission auprès des païens qui va déclencher la plus grande crise du mouvement, de l'intérieur cette fois.
C'est le grand paradoxe de cette histoire. Et cela nous mène directement au premier grand conflit culturel interne. le fameux Concile de Jérusalem.
Le choc est frontal. On a d'un côté la base d'Antioche, la base, disons, progressiste, qui célèbre l'arrivée des païens, et de l'autre, le quartier général conservateur à Jérusalem.
Un vrai choc de culture.
Des membres très stricts, liés aux pharisiens, posent un ultimatum inflexible. Ils disent « si ces païens veulent être sauvés, ils doivent se faire circoncire et respecter toute la loi juive ».
Pour comprendre cette inflexibilité, il faut vraiment plonger dans le contexte politique explosif de l'époque, et particulièrement l'influence de l'école pharisienne de Shammai.
Justement, pouvez-vous nous éclairer sur cette école ? Pourquoi est-ce qu'ils durcissaient autant leur position à ce moment précis ?
C'est avant tout une question de survie nationale. La Judée souffrait terriblement sous la mauvaise administration romaine. L'occupation, les taxes écrasantes, le mépris culturel, tout ça attisait un nationalisme juif ardent.
Ils se recroquevillaient sur eux-mêmes.
Voilà. Pour eux, la loi juive n'était pas juste de la théologie, c'était le dernier rempart de leur identité. Ils construisaient des murs de règles de plus en plus hauts pour éviter d'être assimilés par l'Empire.
Donc, quand des païens, les représentants de cet empire oppresseur, entrent dans le mouvement sans la circoncision.
Ce n'est pas seulement perçu comme une hérésie, c'est presque ressenti comme une trahison nationale.
Alors, le débat à Jérusalem s'annonce explosif. Pierre tente bien de calmer le jeu avec les miracles, mais c'est Jacques qui tranche. Jacques, c'est une figure hyper respectée par les conservateurs.
C'est la seule personne qu'ils étaient prêts à écouter.
Et il accomplit un coup de génie théologique. Il utilise le prophète Amos, le chapitre 9, mais il y a une nuance linguistique avec la traduction grecque. Non, Ève ?
Oui, il s'appuie sur la Septante, la traduction grecque des Écritures. Le texte hébreu parlait de posséder le reste d'Édom, une nation ennemie. Mais la version grecque traduit ça par le reste d'Adam.
Adam, donc l'humanité entière ?
C'est ça. Jacques utilise cette nuance pour prouver que l'intégration massive des non-juifs est l'accomplissement du plan divin.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au niveau pratique ? Parce qu'être d'accord sur un texte, c'est bien, mais comment on trouve un compromis qui évite la scission de la communauté au quotidien ?
Si nous relions cela à une perspective plus large, on assiste à un chef-d'œuvre de diplomatie. Il ne force pas la circoncision. C'est une victoire majeure pour les progressistes.
Et en échange ?
En échange, il demande le respect de quatre règles de base, les lois noachides, éviter l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, le sang et la viande étouffée.
Le sang et la viande étouffée, pourquoi c'était si crucial ?
Pour la communion de table. Le but n'était pas l'uniformité dogmatique, mais de créer les conditions pour que juifs et païens puissent partager un repas ensemble sans que le croyant juif ne se sente souillé.
Pouvoir manger à une même table, tout simplement. Et pour sceller ça, la lettre est écrite dans un grec parfait, par pur respect pour les païens.
C'était le geste diplomatique ultime.
Quel voyage incroyable quand on y repense. Des mythes de Zeus aux tuiles jetées depuis les toits, jusqu'à cette manœuvre diplomatique complexe à Jérusalem.
C'est la résilience humaine à l'état pur.
Et ça nous laisse avec une réflexion fascinante pour ceux qui nous écoutent. Le concile a atteint un consensus sur la pratique partager un repas, sans forcer tout le monde à être d'accord sur chaque détail théologique.
Oui, et ça soulève une question vertigineuse pour notre époque moderne.
Surtout dans nos espaces numériques souvent hyper polarisés, où on crée des petites bulles de pureté idéologique.
Exactement. Est-il plus vital pour la survie d'une communauté de trouver des moyens pratiques de partager la même table, même numériquement, plutôt que d'exiger une pureté absolue de chaque membre ?
Une question essentielle pour les esprits curieux. Trouver le courage de s'asseoir à la même table, malgré tout. Eh bien, un grand merci d'avoir partagé cette analyse avec nous aujourd'hui. On donne rendez-vous à notre audience très vite pour une nouvelle exploration de nos sources.